Voilà. Ce midi, on va donc manger une soupe au vermicelle avec du bœuf, des poivrons, des tomates et plein d'autres ingrédients à la coriandre. Ensuite, il y aura une petite salade de concombre, tomate, oignon, suivie par le polo, qui est le plat traditionnel pour les fêtes ouïghours, les fêtes familiales, les fêtes populaires, les fêtes religieuses. On mange très très souvent du polo. Donc c'est du riz sauté qui se fait avec des carottes normalement orange et jaune, mais vu qu'en France il n'y a que des carottes oranges, ça se contentera des carottes oranges, avec beaucoup d'oignons et du mouton roussi à l'avance au wok. Et en dessert, on va avoir du yaourt au miel avec des fruits secs et des fruits frais coupés en petits morceaux.
Le repas de fête ouïghour.
Exactement. Donc aujourd'hui c'est un peu un jour de fête puisque c'est l'occasion pour nous de présenter Moukadas et Nour Mehmet qui nous ont énormément aidés depuis le départ aussi bien en France que dans le Xinjiang à réaliser notre projet. Donc ils sont venus ici pour nous aider à préparer la cuisine mais aussi pour rencontrer les différents partenaires qui nous ont aidés côté français et puis pour discuter avec nous, avec les personnes qui viennent à la table d'hôtes. Pour expliquer qui ils sont, comment ils vivent, quelles sont les. Enfin, je trouve ça important aussi qu'ils puissent apporter leur témoignage qui est bien plus direct que le nôtre, puisque nous, avec Morgane, on est partis dans le Xinjiang un mois. Mais je trouve ça intéressant aussi qu'il y ait ce rapport direct entre les Ouïghours et le public du centre social.
Donc, ambiance de voyage, comment ça s'est passé ?
Le voyage ? Alors, le voyage, c'était vraiment... C'était une expérience humaine, d'abord, vraiment extraordinaire. Moi, j'ai vécu en Turquie, j'ai travaillé un peu au Moyen-Orient, etc. Mais là, on a vraiment vécu des moments, un partage, vraiment une discussion interculturelle vraiment super forte. Donc on a eu des guides extraordinaires qui nous ont guidés, qui nous ont emmenés dans leur famille pendant plusieurs jours, chez leurs amis, dans les villages. C'était vraiment une chance extraordinaire d'aller en dehors des sentiers battus, rencontrer des gens qui étaient hyper contents de nous voir, qui nous ont fait partager leur musique, leurs fêtes populaires, leur mariage, leur circoncision. On a eu la chance d'assister à plein de fêtes populaires. On a écouté vraiment plein de musique, on a vu des petits sketchs de théâtre. On a vraiment partagé des moments exceptionnels. Et c'est vrai qu'on a découvert un peuple qui s'est ouvert à nous d'une façon, avec un très grand cœur. Et du coup, c'est aussi une façon de leur rendre hommage que de faire les événements qu'on produit maintenant, quoi.
Un sens de l'accueil qu'on apprécie d'autant plus quand on est de la région du Nord-Pas-de-Calais.
Oui, voilà, c'est ça. Exactement, avec cette idée que le sens de l'accueil passe par la nourriture. Donc, que pour bien recevoir un invité, il faut qu'il mange. Donc, on s'est retrouvés à manger du mouton bouilli, grillé en brochette, des plats traditionnels, etc. Jusqu'à 8 fois par jour, parfois. Donc, on était vraiment plein. Donc, c'est vraiment une marque d'hospitalité très forte et qu'ils nous ont témoigné sans aucun doute, quoi.
Donc, une culture très enracinée encore ?
Oui, une culture très enracinée. Il y a un mix entre la culture chinoise et la culture ouïghour dans les villes, etc., sur les plans alimentaires, culturels et tout ça. Mais malgré tout, par exemple, sur la musique, sur les fêtes populaires, sur la place de la religion dans la vie quotidienne, etc., on voit que c'est un peuple qui est quand même qui a une identité tout à fait Asie centrale. Et la place de la religion dans la vie quotidienne est hyper importante, de la première prière à la dernière. Quand on mange, il y a tout un rituel, quand on sort de table. La vie quotidienne est vraiment imprégnée de la religion musulmane, vraiment au quotidien, ça on le sent de façon très forte. Et puis après... qu'est-ce qu'on a encore ? C'est vrai que les tenues vestimentaires, le sens de l'accueil, etc., c'est vraiment typiquement Asie centrale, quoi. Donc c'est un peuple qui a une très grande fierté de sa culture et de ses particularités et qui aime bien les montrer, clairement.
Donc vous étiez à deux femmes, ça change quoi d'être femme et d'aller en voyage là, dans cette région du monde ?
Alors, ça change par exemple que les femmes ne rentrent pas dans les mosquées. Donc du coup, on n'a pas pu aller, par exemple, dans les mosquées. C'est vrai qu'après, il y a une tenue minimum à respecter par rapport aux hommes. Donc moi, ça ne m'a pas posé de problème du tout parce que j'avais déjà vécu au Proche-Orient et tout ça, donc c'était pas du tout un problème. Mais c'est vrai qu'il y a des règles minimum de tenue, voilà, moi je suis fumeuse, donc je sais pas si je peux le dire, mais je suis fumeuse, mais par exemple, voilà, une femme ne fume pas là-bas, donc je passais mes journées sans fumer, ce genre de choses. Donc il y a une tenue à avoir et un respect et une distance par rapport aux hommes qui est tout à fait normal. Et sinon, on n'a eu aucun problème de réception pour parler avec les hommes, les femmes. On a été très bien accueillis par tout le monde, aucun souci majeur. En dehors du fait de pas pouvoir rentrer dans les mosquées, quoi.
Les repas se font en commun ?
Oui, bien sûr, avec des grandes tables. Les repas, c'est un peu bizarre. Quand on arrive, il y a tout des fruits secs, des gâteaux, etc. Tout déjà mis sur la table. Donc c'est des énormes tables recouvertes de victuailles. Quand on arrive, et après c'est des très grandes tables, tout le monde s'installe et mange, et puis après les plats arrivent les uns à la suite des autres, et tout le monde est assis par terre sur des tapis, et il y a des petites tables devant nous, ou alors des grands tapis, choses comme ça.
Ce sont des jours de fête ou c'est au quotidien ?
C'est la façon de recevoir les invités. Après, c'est pas forcément dû à un événement particulier. Non. Donc nous, on a eu la chance après d'assister à des mariages, des circoncisions, des jours très particuliers. Mais en dehors de ça, on était reçus toujours avec des mesures dans toutes les familles où on a été, même si le jour n'était pas particulier.
Qu'est-ce qui, en plus de ces éléments, vous ont marqué ?
Ce qui m'a marqué clairement, le premier souvenir auquel je pense, il y a deux souvenirs auxquels je pense. Le premier souvenir, c'est la Meshrep, qui est une fête populaire où il nous a fallu danser, où il nous a fallu vraiment nous accoutumer, où on a fait rigoler le village parce qu'on avait un peu du mal à s'adapter aux coutumes, et ça a été un moment de partage et un peu de remise en question assez fort. C'était très drôle. Et les deuxièmes moments, c'est avec plusieurs de nos guides, donc très religieux, qui nous ont emmenés partout, etc. On a eu vraiment des discussions de fond sur les valeurs de la société, sur ce qui nous différencie, ce qui nous rassemble. Et c'est des moments, plusieurs fois, c'était vraiment des moments de partage fort, parce qu'on était très différents, avec un monde entre nous, et pourtant on a réussi à échanger, à bien communiquer sur ce qui nous rassemble et ce qui nous divise.
Donc la guide parlait français ?
Non, anglais. Enfin, anglais. Mais quand on veut se comprendre, on se comprend. Un peu anglais. Ce guide-là, il parlait anglais. Un peu anglais.
Au final, pas de problème particulier ?
Non, pas de problème particulier. Aucun problème particulier. Moi, je parle turc, donc on faisait des espèces de mélange de langues, donc ça, c'était un peu rigolo, quoi. C'était entre anglais, turc, ouïghour, un espèce de mélange pour arriver à se comprendre, et ça a bien marché.
Pendant combien de temps, ce voyage là-bas ?
Un mois, ouais, c'est ça. C'était une sacrée expérience. On a vraiment été au nord, dans les montagnes, au sud, dans le désert, dans les villes. On a pu faire couvrir quand même un maximum de choses en peu de temps, quoi.
Les conditions de vie là-bas ?
Les conditions de vie, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont à la campagne, c'est beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de gens qui vivent de l'élevage et de l'agriculture, etc. Après, c'est des gens qui m'ont paru très heureux de vivre, qui manquait de rien. Enfin, moi, j'ai pas aperçu de conditions de vie particulièrement difficiles, même si c'est une région qui est globalement plus pauvre que le reste de la Chine, que d'autres grandes villes en Chine, etc. J'ai pas senti vraiment de besoin. Alors peut-être que c'est moi qui les ai pas perçus, qu'on me les a pas montrés, mais j'ai pas senti de nécessité particulière. On a vu des réseaux, on est allé dans le nord, après on a fait 800 km, on est allé un peu plus au sud. Il y avait des gens qui se connaissaient, enfin, c'est la grouille de vie, d'initiative, de réseau, de plein de choses. Ouais.
Et l'ouverture sur le monde, elle se fait comment à partir du Xinjiang ?
Elle se fait un petit peu, mais pas. S'il y a des musiciens qui bougent, qui viennent, parce que la musique ouïghour, hein, classique, les moukams ont été reconnus patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO, donc du coup c'est vrai que ça a entraîné le fait que les musiciens s'exportent un peu, vont au Japon, en France, en Angleterre, etc. Ça se fait par ça, ça se fait aussi par des conférences. Donc Adas, elle revient de séjour aux États-Unis où elle a travaillé sur la danse, etc. Donc ça se fait par le biais culturel, un peu. C'est un peu je pense que c'est un début.
Et donc là-bas, c'est un peuple d'éleveurs essentiellement ?
Non, il y a de tout. C'est 15 millions, c'est 10 millions de personnes. Et c'est 10 millions de personnes, et c'est vrai que il y a des gens qui vivent dans les villes et qui vivent à la citadine, alors qu'il y a beaucoup de gens aussi dans les campagnes qui vivent principalement de l'élevage, qui fabriquent du miel, donc c'est mixte.
Merci, madame. Ouais.